Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne vraiment la nutrition sportive. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce nouveau podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe, la nutrition, et si possible la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir une sportive et diététicienne qui va tout nous dire sur l'alimentation sportive avant, pendant, après l'effort, mais aussi finalement dans notre vie quotidienne. Marie-Caroline Savelief a fait de la gymnastique, du hand, elle roule en vélo et court le marathon en 3h06. En tant que diététicienne, elle suit de nombreux sportifs amateurs et aussi de très haut niveau. Elle intervient par exemple à l'INSEP et a suivi Nathalie Mauclair, championne du monde de trail. Dans cet épisode, elle décortique pour nous les bases de l'alimentation sportive dans l'effort au quotidien, nous livre de nombreuses astuces et répond à mes questions un peu parfois et même souvent très naïves de coureurs un peu débutants. Si vous voulez en savoir plus sur notre invité, je vous encourage à regarder les notes de l'épisode. Pour suivre tous les liens, vous retrouverez aussi le lien vers son livre, le grand livre de l'alimentation du sportif. Et bien sûr, vous pouvez consulter le site du podcast happyrun.fr/podcast ainsi que le compte Instagram Podcast Sport et Nutrition, sur lequel nous publions des compléments ainsi que la recette de nos invités. Allez, je vous laisse maintenant écouter notre discussion avec Marie-Caroline. C'est parti. Bonjour Marie-Caroline.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah, comme on peut, hein, actuellement ça va. Pour tout le monde, on aimerait bien aller un petit peu mieux, mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord et puis il faut positiver, hein.
Oui, bah, on en discutait juste avant, c'est vrai, avant de commencer l'enregistrement, on disait que les sportifs un petit peu cherchent un petit peu à savoir quel sport ils peuvent faire. Les coureurs peuvent pas faire de course, les autres sports peuvent pas faire de sport, donc ils peuvent courir. On est dans une période où finalement tout le monde se cherche un peu.
Tout à fait. Après, voilà, comme dit qu'il faut positiver, il y a plein de petites choses positives qui arrivent actuellement. On sait que depuis aujourd'hui, par exemple, on peut aller au moins à 30 km pour aller dans des établissements recevant le public. C'est-à-dire qu'on peut aller à une piscine qui est un peu plus loin, même quand on habite à la campagne, on peut aller finalement à d'autres stades qui seront un petit peu plus loin. Donc finalement, c'est bien de s'ouvrir à d'autres sports et puis c'est bien de pouvoir pratiquer en fonction de ce qu'on en a à proximité aussi.
Alors, on va quand même faire les présentations avant d'aller trop loin comme ça. En quelques mots, et je sais que c'est parfois difficile, comment tu te présentes? Je te laisse te présenter, hein, avec les mots que tu veux.
Alors, je suis spécialisée tout simplement dans la diététique et dans le sport. Donc, je suis diététicienne nutritionniste. J'ai un DU de nutrition du sportif. Alors, j'ai même un DU de prise en charge des addictions. Donc, des addictions au sens très large, hein, c'est-à-dire que ça va de l'addiction à la nourriture, au chocolat, en passant par l'addiction au sport et à plein d'autres choses. Donc, ça me permet de m'ouvrir finalement à un large public. À la diététique pour des personnes qui n'ont jamais fait de sport mais qui finalement ont besoin de découvrir et d'augmenter un petit peu leur niveau d'activité physique, et puis bien sûr à des sportifs de haut niveau. Et moi-même, bah, finalement, je suis pratiquante, hein, j'ai toujours pratiqué différents sports, mais là on va dire que je suis quand même un peu plus spécialisée en course à pied et spécifiquement en athlétisme et encore un peu plus spécifiquement en mi-fond, c'est-à-dire que ça va du 1500 au marathon, au trail. Alors, jamais d'ultra-trail, mais on va dire qu'on est allé jusqu'à 50 de kilomètres ou des courses en montagne.
Oui, alors moi je suis sur le compte Instagram tout de suite et je vois quand même marathon en 3h06, ça claque.
C'était mon premier en plus. Ça claque, mais j'ai jamais fait mieux, donc c'est presque un peu frustrant. Alors j'ai fait des petites courses sympas, par exemple j'ai fait alors le 3-6, c'était sur Nice. Par contre, j'ai fait il y a peu de temps le Médoc en 3-16. Et là, finalement, là, c'est assez glorieux parce qu'il faut pouvoir le faire parce que pour le coup, c'est un peu un simili-trail. Et puis en plus, avec une ambiance festive qui est énorme, hein, qui manque justement.
Oui, alors c'est marrant parce qu'en général, les gens se vantent pas d'avoir fait un super temps au Médoc.
Alors, il y a une petite motivation, hein. C'est-à-dire que nous, on est un petit groupe d'amis invités par un château. Et en fait, quand on gagne en équipe ou quand on fait un petit podium sympa, on repart avec, on va dire, une petite carte dans le coffre. Hein. Petite, hein, faut pas non plus abuser, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais on va dire que c'est des bons vins qu'on déguste toujours entre amis. Et finalement, il y a un côté qui est très, très, très convivial. Et je l'ai fait sous toutes les formes. C'est-à-dire que je l'ai fait, entre guillemets, à titre de performance, pas pour un chrono, mais pour essayer de me dépasser. Et je l'ai fait, bien sûr, aussi en côté festif. Et tout cela, toujours que ce soit festif ou, entre guillemets, compétitif, j'ai toujours fait avec le déguisement qui était de mise sur le thème.
Alors, de fait, là, on commence à parler de vin dès le départ, donc ça va quand même rassurer certains qui peuvent avoir l'impression que les sportifs, ils sont très sérieux, très carrés, qu'ils s'autorisent pas d'écart, etc. C'est quoi finalement les secrets, j'ai envie de dire, de la nutritionniste, diététicienne, comment, je sais pas quel métier, je me rappelle.
Alors, en fait, diététicien, c'est soumis, on va dire, à un diplôme.
Oui.
Ça, c'est quand même intéressant à ajouter, c'est quand même quelque chose à relever, c'est qu'effectivement, diététicien, c'est soumis à un diplôme qui est un minimum, on va dire, de 2 ans. Et après, il y a des spécialisations, que ce soit, comme je disais, en addicto, que ce soit en sport, que ce soit en diabéto, etc. Et par contre, le terme nutritionniste, contrairement à ce qu'on peut croire, souvent dit que c'est encore mieux, mais en fait, non, c'est un qualificatif. Alors, pour un médecin nutritionniste, un qualificatif en plus. Par contre, un nutritionniste ou un coach nutritionniste, ça peut être la formation d'un week-end. Donc, en fait, c'est des choses sur lesquelles, pour le coup, il ne faut pas se laisser avoir. Et le terme nutritionniste ne va absolument rien dire si ce n'est pas, finalement, ce n'est pas affublé, je dirais, du terme diète ou du terme médecin.
D'accord, bah c'est bon à savoir effectivement hein, de savoir ça. Alors moi, c'est vrai que j'avais vu que diététicien c'était réglementé, etc. Parce que moi, dans mon passé, j'en ai fréquenté une quand j'ai perdu mon poids, j'ai perdu 27 kilos dans ma vie. Grâce justement à quelques conseils, et justement, c'était intéressant l'approche, parce que les gens ne se rendent pas trop compte, finalement, du travail d'une diététicienne et de ce que ça peut leur apporter. Alors, on parlait de reprise du sport, mais on disait aussi pour ceux qui, finalement, veulent aussi progresser, qui ont déjà peut-être une forme qui est la leur et qui voudraient progresser. Alors, et qui, finalement, c'est quoi un petit peu l'approche que tu peux avoir avec des gens qui s'intéressent à cette question-là?
Alors déjà, on peut commencer par ce qu'on pense. Et souvent, diététicien, ça veut dire restriction, c'est presque désuet, ça veut dire finalement régime et pas dans le mot régime équilibre alimentaire, ça veut dire voilà, c'est le côté où finalement il va falloir choisir entre plaisir et prise ou perte de poids. Et puis d'ailleurs, c'est pas forcément, on pense tout de suite perte de poids. J'ai beaucoup de patients qui sont dans l'objectif déjà, ça peut être de la prise de masse musculaire, pas forcément culturiste, hein, c'est-à-dire qu'un bon trailer effectivement doit de conserver la masse musculaire. Même un marathonien justement a tendance à fondre musculairement, donc au moins pour conserver cette masse musculaire. Après, il y a le côté carence, hein. Vous savez que certains micronutriments sont anti-crampes, anti-fatigue. Et après, on a aussi le côté performance pure, c'est-à-dire mise en réserve de l'énergie, bonne récupération, donc le côté avant, pendant, après. Et aussi, on aura le côté, je dirais, qui est malheureux souvent sur des courses longues ou sur des efforts assez intenses, c'est le côté trouble digestif. Et ça, effectivement, on vient voir aussi pour ce côté-là, comment s'alimenter pendant une course, comment s'alimenter pour bien performer.
Et c'est des questions, j'imagine que, parce que t'accompagnes aussi des athlètes de très haut niveau, hein, alors on peut en citer quelques-uns quand même, parce que ça permettra un petit peu de positionner un petit peu les genres d'athlètes que tu as pu accompagner.
Globalement, alors en athlète de très haut niveau, alors déjà, je dirais, je suis un petit peu des athlètes sur l'INSEP, donc pour le suivi finalement médico-sportif qu'ils ont annuellement, normalement, c'est pour faire un petit bilan. Et donc là, on a des athlètes de tout type encore et de toute catégorie, c'est-à-dire que oui, on a les athlètes, hein, on va dire que le bureau a vu justement sur la piste d'athlétisme intérieur et extérieur, pour ceux qui connaissent un peu l'INSEP, en fait, on est en haut des gradins, donc on est vraiment dedans à fond, tout le temps, hein. On peut travailler, bouquiner sur les gradins, sympathique. Et à côté de ça, donc il y a les nageurs de haut niveau, il y a les gymnastes, il y a la natation synchronisée, il y a les plongeurs, il y a vraiment les basketteurs, il y a tout. Et après, plus spécifiquement, en cabinet, comme moi, je suis finalement plus sur la région parisienne et le côté Manceau. Finalement, j'ai suivi des athlètes tels que Nathalie Vauclair, hein, je dirais que c'est une des personnes qu'on connaît le plus, hein, qui a quand même été championne du monde de trail. D'autres athlètes, finalement, des triples sauteurs aussi, qui sont assez reconnus, qui ont fait des championnats du monde. Des conseils aussi diététiques pour l'alimentation avant, tels que Hassan Chadi, etc.
Ouais, ça fait ça montre aussi que finalement tous les sportifs, j'ai envie de dire, ont besoin de s'intéresser à cette question-là, d'une manière ou d'une autre.
Tout à fait. Et souvent, justement, malheureusement, c'est des questions auxquelles, voilà, on parle d'un marathonien, par exemple, de haut niveau. Nous, quand finalement, on commence à faire un semi-marathon, on sait que pendant un semi-marathon, on aura besoin de s'alimenter et pas que de l'eau. Donc, il va falloir, dès la pratique du semi-marathon, qui est quand même assez accessible, penser à s'alimenter. Un sportif de haut niveau, un marathon, il le fait en à peine plus d'une heure. Honnêtement, il pourrait ne pas s'alimenter. Et c'est ce qu'il fait. Et il arrive finalement à avoir une bonne performance. Ce qui fait que quand il arrive au marathon, il n'a pas forcément cette présence d'esprit à se dire, alors déjà, je risque d'éliminer. Alors certes, il a peur d'avoir le mur, mais il pense surtout entraînement, il peut penser récupération via la cryothérapie, via. En gros, c'est souvent un parent pauvre, finalement, ce côté alimentation. Et c'est finalement quand on a cette problématique qu'on commence finalement un petit peu à s'y attarder. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des problèmes de transit, on a un gros mur au marathon au bout de 2 heures et on devait faire 2h10. Et bah oui, effectivement, on se dit, je me suis bien entraînée, c'est même très frustrant. Je me suis donné un maximum de moyens. Et physiquement, je m'entraîne, finalement, je fais plus de 200 bornes par semaine, je fais du bi-quotidien. Et puis, bim, finalement, c'est l'alimentation, c'est l'hydratation aussi, hein, finalement, qui me pose problème. Donc, c'est vraiment un objet de frustration auquel on peut, je ne vais pas dire remédier facilement, mais finalement, qu'on peut traiter. Et qui est important, c'est vraiment le côté, voilà, repos, entraînement et alimentation. Je dirais que c'est vraiment les trois qui sont très, très importants. Puis, il y a aussi le côté psychologique, bien sûr.
Oui, et c'est vrai que, alors je vais pas ressentir cette anecdote là tout le temps, mais moi elle m'a vraiment frappé. J'ai vu le documentaire sur Disney+, sur la tentative de record du monde de Kipchoge en 2 heures. La première tentative qu'il fait à Monza, ils étaient 3 coureurs, dont un qui était peut-être champion du monde de semi ou quelque chose comme ça, et qui ne buvait pas pendant une course. Parce qu'en fait, bah, son semi, il le fait en moins d'une heure. Donc finalement, il n'avait jamais besoin de boire, ou il ne ressentait pas le besoin. Et le premier conseil qu'ils lui ont donné, l'équipe, quand même, une grosse équipe, hein, pour arriver à leur faire ça, c'est de dire, bah, il va falloir que tu te mettes à boire quand même maintenant, si tu veux arriver à passer le cap.
Ça paraît tellement simple. Et en plus, même à la base, c'est-à-dire qu'au quotidien, on est composé à plus de 60-70% d'eau. Et c'est vrai que moi, souvent, les premiers conseils alimentaire auquel on ne pense pas, parce qu'alimentation, on pense à manger. Le premier conseil alimentaire principal, c'est l'hydratation. L'hydratation parce qu'on est composé d'eau, l'hydratation parce qu'on sait que 1% du poids de corps en moins, c'est 10% des capacités et physiques et cognitives, c'est-à-dire que même le temps de réaction, que ce soit en VTT ou que ce soit sur des pratiques, vraiment le côté même football, etc., action-réaction, c'est vraiment indispensable. Et l'hydratation, même quand on est dans une recherche de perte de poids, peut être très intéressante, puisqu'en fait, certaines eaux minérales contiennent, bah, comme leur nom indique, des minéraux, notamment par exemple le magnésium antifatigue, bah, on pourra le retrouver facilement dans certaines eaux minérales, ou justement certaines eaux pétillantes, riches en sel, qui permettent de retrouver un petit peu les composantes de la sueur. Donc finalement, oui, cette hydratation, ça paraît très simple, mais s'il y avait une chose par laquelle il fallait commencer, finalement, c'est le côté hydratation, même les réserves en glycogène. Notre carburant l'effort, on a beau faire des plâtrés de pâtes pour stocker 1 gramme de glycogène, il faut 3 grammes d'eau. Donc la pasta partie la veille, sans avoir d'hydratation, bah, finalement, c'est un petit peu manqué.
Ouais, j'ai envie de dire, finalement, il vaut mieux boire que faire une grosse pasta party, non?
Oui, on n'irait peut-être pas jusque-là. Après, effectivement, le côté grosse pasta party, oui, il faut mieux avoir, je dirais, ouais, c'est un peu comme tout, hein, c'est la variété, et justement, penser un petit peu à tout. Et le problème, c'est quand on ne se focalise que sur une chose, un peu comme même à l'entraînement, hein, c'est-à-dire se dire qu'on va faire que de l'endurance pour du long, bah, le problème, c'est qu'on va perdre en vitesse. Pareil, les côtes, ça servira aussi pour le côté explosivité. Bah, c'est pareil pour l'alimentation, se dire, bon, bah voilà, les crudités, c'est bon parce que c'est riche en vitamines. Bah oui, mais il n'y a peut-être pas assez d'énergie. Les pâtes, c'est bien parce que c'est du carburant, bah oui, mais il n'y a pas assez de vitamines. Donc finalement, tout sera complémentaire. Et justement, toute cette complémentarité alimentaire permettra aussi d'éviter forcément la complémentation, parce que c'est, je dirais que c'est un peu le dernier recours de se complémenter.
Oui, et pourtant, c'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est un défaut d'Instagram ou moi, une espèce de prise, mais on a l'impression quand même que les compléments alimentaires, c'est un petit peu le truc qui est placé, faut en prendre absolument, faut prendre des poudres, faut prendre de la protéine, faut prendre de ça, etc. Est-ce que c'est dans l'esprit des gens, c'est devenu comme ça parce que c'est une facilité, ou est-ce que c'est moi qui ai une vision déformée des choses en fait?
Alors oui, c'est devenu de plus en plus finalement commun. Alors en fait, c'est très antinomique. Notre société actuellement, on est dans la recherche du naturel et dans la recherche du complément alimentaire, c'est-à-dire qu'on a un petit peu les deux, c'est-à-dire que même on veut des compléments, et même ça devient plus qu'antinomique, c'est-à-dire qu'on a certaines, par exemple, j'en parle avec certaines entreprises de nutrition du sportif, c'est-à-dire que pour qu'un produit soit labellisé bio, on n'a pas le droit de rajouter certaines vitamines à l'intérieur. Là, je parle vraiment dans des côtés spécifiques, c'est-à-dire que vous avez un gel énergétique, il y a souvent quasiment que du sucre, hein, des choses en hausse, glucose, saccharose, etc., ou une boisson de l'effort isotonique. Et on a quasiment toujours de la vitamine B1, B2, enfin la vitamine du groupe B. Pourquoi ? Parce que cette vitamine, elle facilite en fait l'utilisation du sucre comme carburant. Donc elle est très intéressante dans ces gels, dans ces boissons. Sauf que maintenant, dans un aliment qui est bio, de l'effort, on n'a plus le droit de rajouter des vitamines à l'intérieur. Ce qui fait qu'un aliment bio peut être très intéressant, mais finalement, bah, il le sera peut-être un peu moins sur la nutrition du sportif parce que finalement, qualitativement, on ne pourra plus rajouter de vitamines du groupe B. Donc oui, au quotidien, il faut mieux manger sa vitamine du groupe B avec des produits céréaliers, etc. Mais là, sur un marathon, on ne va pas, voilà, on va pas manger quelque chose. Donc un complément alimentaire, effectivement, ça peut être intéressant sur des cas spécifiques. Voilà, sur un marathon, oui, on préférerait à midi manger ou sur un trail se faire finalement une bonne paella. On est d'accord que si on est entre le 30e et le 40e kilomètre, faut mieux prendre une boisson d'effort, un gel ou une barre en fonction du niveau et puis des capacités de digestion que cette fameuse paella. Donc finalement, le complément sert, bah, comme son nom l'indique, surtout à compléter et surtout pas à surcomplémenter ou à finalement avoir une supplémentation qui ne sera pas forcément utile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, par contre, là je suis catégorique, pour moi les compléments multivitamines, il n'y a pas d'intérêt parce qu'on ne sera jamais, bon, sauf cas exceptionnel, mais dans ces cas-là, je pense qu'il faut mieux pas faire d'activité sportive à ce moment-là. Si on est carencé de partout, faut déjà peut-être penser un petit peu à se reposer, qu'on a peut-être un problème de surentraînement ou finalement une autre pathologie. Mais en gros, un complément alimentaire, je dirais que là, il n'y a rien de mieux finalement qu'un bon diète, effectivement, pour faire un bilan nutritionnel. Et souvent d'ailleurs, quand je demande un bilan nutritionnel avec un semainier à quelqu'un, je lui dis alors rajoutez-moi si vous voulez à côté les compléments que vous prenez. Par contre, je ne les rajouterai pas dans ce semainier parce que je ne veux pas que ce soit floué. C'est-à-dire que si vous prenez des compléments en magnésium, bah finalement, moi, je vais d'abord regarder si votre alimentation finalement souffre de cette carence en magnésium. Ensuite, je vais vous dire donc on peut le trouver. Si vraiment ça pose problème, oui, effectivement, on pourra se complémenter. Un végétarien, plutôt végétalien, on sait qu'il ne pourra pas avoir B12. De vitamine B12. Donc là, il faut absolument qu'il se complémente. Mais autrement, s'il n'y a pas cette problématique, ça peut même devenir négatif. Le magnésium aide finalement à éviter les crampes, mais il rentre en compétition en trop grande quantité avec l'absorption du calcium. Et le calcium aide à la contraction musculaire. Donc voilà, on voit tout de suite finalement les limites. C'est-à-dire que souvent, un complément alimentaire, ça ne fera pas de mal finalement, ça peut être que positif. Bah, ça ne peut, c'est pas forcément que positif et ça peut pro-oxyder au final.
Oui, parce qu'en fait, on rentre là dans le jeu des interactions entre les produits et puis avec notre propre activité, nos propres habitudes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, voilà, un petit peu tout ce qu'on fait, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que chaque cas est unique et on ne peut pas donner un plan alimentaire type. Voilà, il y a quand même des grands, on va dire, des grandes orientations. Mais quelqu'un qui est végétarien, je ne vais pas lui dire qu'il faut absolument manger, pour avoir ses apports en fer, qu'il faut absolument se manger un bon steak haché toutes les semaines. Justement, c'est un petit peu aussi ce jeu de piste. C'est comme un entraîneur qui voit en fonction des capacités de chacun. Et quand je dis capacité, c'est physique, mais c'est aussi le côté professionnel, le côté familial. Donc, c'est un petit peu un jeu de piste et auquel finalement le diététicien, l'athlète, et puis même des fois le coach qui va avec, finalement, notamment pour les sports à catégorie de poids, finalement on s'incrémente tous ensemble et ça nous permet finalement de faire, et puis bien sûr d'autres professionnels paramédicaux, ça nous permet d'optimiser la performance. Et quand je dis optimiser, c'est voilà, c'est ne serait-ce qu'être finisher, c'est pas forcément effectivement être champion du monde,
Ouais.
C'est alors... se faire plaisir. Alors des fois on se fait plaisir en se faisant un peu mal, mais c'est se faire plaisir quand même, trouver dans l'alimentation déjà au quotidien effectivement un équilibre qui nous fasse un minimum plaisir. Faut pas être toujours dans la restriction. Et après, bon, quand même aux abords de l'effort, faut être honnête, faut quand même voilà, la veille d'une course, on sait que même si on aime certaines choses, il faudra quand même les éviter, et autrement de toute façon on regrettera le jour finalement le jour J.
Est-ce qu'il y a une règle d'ailleurs de se dire à partir de tant de jours avant, alors bien sûr après il faut distinguer les athlètes des athlètes du quotidien, j'ai envie de dire, mais de se dire tant de jours avant, il y a quand même, maintenant, il faut arrêter de, il faut vraiment tout cadrer beaucoup plus comme il faut, faire beaucoup plus attention, etc., parce que, on va le payer à coup sûr.
Alors, honnêtement, moi, justement, c'est pas, je distinguerais pas les athlètes des athlètes de haut niveau. Pour moi, justement, même un athlète, entre guillemets, lambda, il a pas, voilà, un athlète de haut niveau, justement, il a peut-être tendance à trop se priver trop souvent, mais finalement, un athlète du quotidien, souvent, il a, j'ose espérer, surtout qu'il est, voilà, une sorte de prisonnier, qu'il n'ait qu'un objectif. Je ne parle pas de la personne qui va faire des courses tous les week-ends où, effectivement, de toute façon, il n'y aura plus d'objectif spécifique. Mais quand on a un objectif spécifique, c'est pas le niveau de l'athlète que je différencierais, c'est plutôt le type de sport. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui va faire un marathon ou une course beaucoup plus longue par rapport à un sprinter ou par rapport à un handballeur, finalement, on ne risque pas d'avoir des déperditions en glycogène, c'est-à-dire une chute de la glycémie trop importante, etc., ou un manque de réserve si on fait un sprint. Alors que finalement, si on fait un marathon, il faudra quand même faire attention à la mise en réserve, il faudra faire attention un peu plus peut-être à la digestibilité aussi. Voilà, donc c'est plutôt le côté type de sport. Et après, si on rentre plus spécifiquement finalement dans des... on va dire que c'est un minimum, je dirais 3-4 jours avant, notamment aussi, il y a aussi une autre chose qui rentre en compte, c'est le niveau de stress. Un athlète qui est très stressé aura souvent plus de problèmes de transit, donc c'est vraiment 3-4 jours avant. Après, pour voilà, un match du handball, du foot, du basket, ça pourrait être 1-2 jours avant, pas plus, ça suffit. Et après, effectivement, pour quand même quelqu'un qui va faire une course très très longue, il y aura certains régimes spécifiques une semaine avant, ce qu'on appelle le régime aussi scandinave ou adapté plutôt, scandinave adapté. Et là, ce sera plutôt une semaine avant. Et je dirais que là, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif, hein, parce qu'on peut dire une semaine, c'est long. Je dirais non, parce que souvent, une semaine avant une grosse course, on ne fait plus rien. Enfin, on ne fait plus rien. On ne s'entraîne plus beaucoup, on ne fait plus grand-chose. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? On stresse, on ressasse la course, on se dit qu'on s'entraîne plus assez. Est-ce qu'on a fait assez? La pire des choses, c'est de refaire une séance parce qu'on avait manqué, etc. Là, si finalement on se focalise sur l'alimentation, ça permet de moins penser à la course, de moins stresser et d'avoir bonne conscience puisqu'on continue à agir pour cette course.
Oui, et c'est vrai qu'il y a une expression, on dit on mange ses émotions, et on en parle justement de cette notion-là, de dire bah c'est vrai que ça va nous déclencher du stress, plein d'émotions potentielles, qu'il faut aussi finalement l'alimentation a son rôle aussi à jouer là-dessus, au moins déjà pour tranquilliser, je pense, dans la préparation.
Je reviens encore, on va dire que je suis toujours sur le magnésium, mais le magnésium est anti-stress, hein, donc effectivement, ça aidera. Et puis, il y a le côté aussi alimentation-plaisir, c'est-à-dire que même si on veut performer, même si on veut perdre du poids, la pire des choses, c'est de se dire, je n'ai pas le droit à tel aliment. Alors, bien sûr, je ne parle pas du côté intolérance, hein, je ne parle pas du côté allergie alimentaire, mais il faut savoir se faire plaisir. Et de toute façon, si on s'interdit, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, on craquera encore plus, on va culpabiliser encore plus. Donc finalement, le côté frustration, culpabilisation qui tourne autour, on va penser qu'à ça, et c'est là qu'on tombe finalement dans un phénomène même d'orthorexie, où on pense trop à ce qu'on doit manger, où on mange que parce que c'est bien et que c'est bon pour la santé. Ils sont bien tristes, hein, où il existe des personnes, où des fois, j'arrive, on me dit, mais vous savez, moi, j'aime pas spécialement manger, hein, vous ne me donnez rien caché, une gélule magique, et finalement, ça irait bien. Et d'ailleurs, on s'en rend compte. Justement, actuellement, en termes de fait de société, c'est-à-dire que voilà, on parle tous de restaurants, même quand on y allait pas très régulièrement, on sait que finalement, c'est un endroit, que ce soit le restaurant, que ce soit même le pub, enfin voilà, ou boire un verre entre amis, finalement, c'est un phénomène de sociabilisation, surtout en France. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de savoir se faire plaisir et justement ne pas se dire, oh, je sors, ça y est, que ce soit en famille ou entre amis, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'assiette? Ou avoir son Tupperware à se ramener finalement parce qu'on sait que ce ne sera pas forcément très équilibré. Ah oui, une veille de course, pourquoi pas? De toute façon, la veille de course, on la passera peut-être un peu plus à dormir pour du cas se coucher un peu plus tôt. Voilà, faut savoir se faire plaisir. Donc, faut savoir pouvoir manger de tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas un aliment qui sera mauvais ni bon. C'est plutôt une question de dose, quel que soit l'aliment.
Oui, c'est une forme d'équilibre en fait qu'il faut arriver à trouver et qui correspond, on le disait tout à l'heure, qui est vraiment très personnel. Parce que, alors moi, il y a des trucs dont je ne peux pas me passer. Hein. Moi, si tu me prives de chocolat, je deviens très grognon, quoi, tu vois.
Mais souvent, en plus, c'est la première chose qu'on dit. Mais est-ce que j'ai le droit à mon petit carré de chocolat ou est-ce que j'ai le droit à mon chocolat dans la journée? Je dis, attendez, tout dépend. Hein. C'est-à-dire que si je vous dis oui, mais que je vois du chocolat partout dans la journée, ça risque d'être problématique. Bon, moi spécifiquement, un dimanche de Pâques, on va dire, hein, voilà, il faut le côté. Mais il faut savoir se faire plaisir. Et après, c'est pareil. C'est-à-dire que si on dit, je ne peux pas me passer de chocolat, mais je ne peux pas me passer de bonbons, et puis je ne peux pas me passer une fois par semaine une pizza, et puis d'un hamburger. En fait, voilà, c'est le cumul. Et surtout, j'irais même, si je peux être extrémiste dans le sens où je dirais, voilà, le chocolat, on n'y a pas le droit si on ne mange pas équilibré à côté. C'est-à-dire que ça ne doit pas remplacer, se dire, tiens, le chocolat, un carré, ça fait, ou deux carrés, ça fait 100 calories, une pomme, ça fait 100 calories, donc j'élimine la pomme. Là, c'est un mauvais calcul. Je mange une raclette un soir, le lendemain, je mange rien parce que c'est trop calorique. Moi, je dis juste une raclette. Il y a le côté hédoniste, c'est pas le côté ultra qualitatif, même s'il y a des protéines, etc. Mais on a quand même les graisses du fromage, on a les graisses de la charcuterie, on n'a pas de produits cerné complet, on a rarement une salade à côté. Donc justement, se dire plutôt le lendemain, tout ce qui était qualitatif qui m'a manqué, eh ben, le lendemain, je vais aller dessus, en évitant quand même de manger du fromage peut-être en fin de repas. Mais surtout, en fait, se dire qu'on a le droit de se faire plaisir. Mais si on essaye aussi quand même, surtout pour un sportif, d'avoir un bon équilibre derrière.
Est-ce que t'as des gens qui arrivent qui sont totalement paumés parce qu'ils ont vu des gens qui leur parlent de régime cétogène, parce que tel coureur a fait ça, tel autre sportif. Alors je pense par exemple à Djokovic qui à un moment donné arrête le gluten et on parle plus que de ça. Et il y a même des pubs en disant ça y est, il est numéro un mondial parce qu'il a arrêté le gluten ou quoi que ce soit. Puis après un autre il arrive, il va courir cétose, et puis l'autre il va faire du jeûne intermittent et c'est magique.
À chaque sportif, à chaque finalement, il y a des modes de partout. C'est un peu comme les modes des régimes du camp, le mode du régime justement cétogène, le mode du régime de labo, la chronobiologie. En fait, on a un petit peu de tout qui se mélange parce que le problème, c'est que les gens souvent enchaînent les régimes, ce qui fait que finalement, ils prennent un peu de tout à droite, à gauche, et donc c'est de pire en pire. Mais justement, c'est On parlait du Djokovic avec les sans gluten, mais même proche de nous, hein, le Tour de France, le régime cétogène, effectivement, les cyclistes, on est à fond là-dedans. Mais le problème, c'est que déjà, ils sont énormément suivis, voire même le côté vegan. On voit aussi beaucoup sur Instagram des sportifs qui font du culturisme, ultra musclés, etc. En fait, à côté de ça, on ne voit pas aussi des surcomplémentations qu'ils prennent derrière, donc ils n'auront peut-être pas de carence, mais bon, ils passent leur vie à se complémenter. Donc oui, le tout, c'est de trouver un équilibre. Et comme je dis, c'est-à-dire, par exemple, un régime cétogène, 70% de graisse dans l'alimentation. Donc, en plus, on a des maux de tête au début, etc. Mais c'est surtout que c'est pas vivable. Voilà, bon, alors certes, on va plus au restaurant, mais bon, manger 70% de gras, et en plus, ça nous fait pas plaisir. De labo, manger du fromage le matin, bah alors on peut aimer le fromage, mais si on n'aime pas le matin, et bah finalement, le régime, il est flingué, et on sait que de toute façon, bon, on en sortira un moment. Et puis pareil, le concept de régime à vie. Je reviens encore sur de labo, j'ai rien spécifiquement contre lui, mais en fait, on sait que ce régime, on le suit un certain nombre de temps, même je crois que du camp, c'est à peu près la même chose, mais après, une semaine par tous les ans, etc., ou tous les mois, on devra reproduire ce système. Alors après, faut se poser la question du côté marketing, parce que voilà, on parle de Djokovic, et ben effectivement, il a sorti ses produits sans gluten, on parle de Delabo qui a sorti aussi ses compléments alimentaires avec ses petites barres ou ses petites dosettes, voilà, faut tout, ou le nombre de bouquins aussi qui sont sortis chaque année par, que ce soit même forcément, ça peut être aussi des faux bouquins, entre guillemets, d'équilibre alimentaire qu'on aura, et ou même les compléments alimentaires, les compléments qui chaque année vous disent 30% plus efficace, 30%, je me dis, mais ça veut dire que la première année, il s'était foutu de nous, et puis que bon, il continue un petit peu à se foutre de nous. Hein. Donc, effectivement, il faut trouver son équilibre, et chaque personne est différente. Donc, un régime. Et en plus, surtout, je reviens sur par exemple le fasting, c'est-à-dire que le fasting, ou comme d'autres, ne peuvent pas convenir à des sportifs. Enfin, c'est mon avis, puisque effectivement, on a besoin de certains aliments. On sait que quand on s'entraîne intensément, on ne peut pas le faire à jeun. Donc le fasting, ça veut dire déjà, parce que c'est le concept de fasting, c'est finalement s'alimenter que sur une courte durée et le reste du temps finalement ne pas s'alimenter. C'est un peu finalement le côté je saute, la solution de facilité, je saute mon petit déjeuner ou je mange pas le soir, etc. Et finalement, bah le corps il commence à compenser. Au début il est choqué, ça va. Après il compense. Et comme je dis, un sportif, bah s'il saute le petit déjeuner, qu'il fait son entraînement intense le matin, il va casser énormément les fibres musculaires, il va y avoir des inflammations. Si il le fait le soir, bah, il n'aura pas de ration de récupération, donc il aura effectivement aussi cassé, mais finalement il ne sera pas alimenté. Et de façon plus proche, si on voit certains, bah, par exemple, on est bientôt en période, il y a certains athlètes qui font le ramadan, et bah, faut savoir que en période de ramadan, quand on voit par exemple sur la fédération tunisienne, la fédération marocaine, conseille aux athlètes même de haut niveau qui font finalement du bicotidien de s'entraîner juste avant la coupure et une heure et demie, deux heures après. La première en endurance fondamentale pour que justement il soit très tranquille et qu'il ne fasse pas souffrir le corps, qu'ensuite à la coupure il y ait la titration de récupération et qu'ensuite il puisse s'entraîner, faire un entraînement spécifique. C'est pour dire à quel point le phénomène de fasting, parce que finalement on est dans un phénomène un petit peu de fasting à ce moment-là, puisqu'on ne mange qu'à une certaine période, bah, finalement est préjudiciable à l'athlète. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'athlètes qui prennent leur coupure sportive à ce moment-là aussi. Donc c'est pas, voilà, c'est pas bon d'aller à l'encontre finalement déjà bah, de ses habitudes et en plus des habitudes de la société. Donc faut pas non plus, faut être maître de soi-même, mais quand on sait, voilà, on mange matin, midi et soir, qu'on va au bureau, on va pas finalement ne rien manger du tout le midi.
Oui, et puis il y a aussi tu parlais aussi des modes, etc. Je pense qu'il y a un documentaire Game Changer notamment sur le fait qu'on n'avait pas besoin de protéines animales. Qui a retourné la tête de tout le monde, parce qu'on nous montre des super hommes, super athlètes, super physiques, super sportifs, qui disent bah pff, moi je mange plus que des or souvent de la poudre, en plus le pire, parce que c'est sponsorisé, c'est en plus, c'est produit par des vendeurs de produits alimentaires, hein, ces trucs là.
C'est ça, c'est que souvent on a des petites gélules. Moi, je peux ne pas manger ça, mais je prends des gélules. Je me dis, mais où est le retour à la nature, à la santé, au côté sain? Enfin, c'est complètement deux choses qui s'opposent. Après, oui, on peut, et effectivement, mais c'est même conseillé. Mais ça me fait rire. Enfin, même le concept de flexi-végétarien me fait rire, parce que finalement, être omnivore, c'est notre base, c'est-à-dire de manger un peu de tout et de façon variée. Et être flexi-végétarien, finalement, c'est revenir au concept d'omnivore. C'est-à-dire que oui, on peut faire des repas sans protéines animales et sans viande, hein. C'est-à-dire que ça peut être du poisson, des œufs, mais ça peut être que des légumineuses. On remplace notre steak haché par finalement la quantité en lentilles ou en quinoa, ça ne gênera pas, justement. Mais le tout, c'est surtout de penser. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que souvent, on est dans une société où on élimine les produits qui ne nous plaisent pas ou qui semblent ne pas convenir justement à la société, mais on pense toujours à ce qui va convenir, c'est-à-dire à ce qui va être positif. J'enlève le gluten parce que ça me fait gonfler, sauf que bah, au bout d'un mois, on a toujours faim parce qu'on enlève les pâtes, mais qu'on ne l'a pas remplacé par tout simplement du riz. Et d'ailleurs, voilà, le phénomène du sans gluten, on voit des aliments pain sans gluten, mais le pain sans gluten, il y a 10% de matière grasse dedans, alors que le pain, normalement, c'est de la levure, c'est de l'eau et c'est de la farine. Donc, on rajoute du gras. Et en plus, c'est un aliment souvent qui sera ce qu'on appelle un index glycémique plus élevé, ce qui veut dire qu'il sera plus vite digéré, ce qui fait qu'on a toujours faim et qu'au bout, au début, le premier mois, quand on mange sans gluten, on perd du poids parce qu'on a enlevé des aliments. Et le mois suivant, on commence à reprendre parce qu'on a toujours envie de sucrer, parce qu'on a finalement toujours faim. Donc, faut penser. J'ai rien contre finalement enlever le gluten, etc. J'ai rien contre enlever du lactose. Par contre, il faut penser à ce qui va nous manquer. On pense souvent à notre confort. Voilà, le lactose, pourquoi pas prendre finalement un produit sans lactose, prendre des boissons au soja si on a envie de varier. Bah, sauf que par exemple, les boissons à l'avoine ne contiennent pas de protéines. Donc si avant on prenait son petit déjeuner avec des céréales, des muesli, avec du lait de vache, et ben on change par du lait de soja, encore ça va. On le change avec du lait d'avoine. Et bien finalement, on n'a plus que de l'eau à l'intérieur, voire même souvent un peu de sucre, un petit peu d'huile de tournesol qui n'est pas fantastique, parce que ça n'a pas énormément de goût. Hein. Le lait d'avoine, c'est rien que les produits, les goûtages hein, finalement de l'avoine. Hein. Donc voilà, et c'est pas négatif non plus, hein, mais faut se dire que si on prend de la boisson à l'avoine, déjà il faut qu'elle soit neutre, sans adjonction, et qu'à côté de ça, et ben, il faille prendre une autre source de protéines. C'est-à-dire prendre un œuf le matin, pourquoi pas, prendre autre chose, mais il faut la source de protéines, végétale ou animale.
Est-ce qu'il y a des... alors, parce que je suis en train de regarder la couverture de ton livre, c'est marqué les 20 aliments stars du runner. Et je vais pas te demander les 20 aliments stars du runner, parce qu'on va pas faire la liste et puis ils sont dans ton livre, mais plutôt te dire, est-ce qu'il y a quand même des choses, des produits dont le sportif doit se méfier plus que d'autres, parce que ils vont être peut-être amenés du gras, du stress sur le corps, ou une mauvaise récupération, ou est-ce qu'il y a des familles peut-être de produits?
Ça va peut-être surprendre. Alors, ce n'est pas des aliments qui sont mauvais, c'est des aliments qui sont très bons. Mais il faut faire très attention aux oléagineux. Les oléagineux sont très bons pour la santé. Mais c'est un peu comme l'huile, c'est-à-dire que c'est très calorique. C'est une densité énergétique énorme. Donc oui, c'est des bonnes calories. Mais moi, c'est les produits que je donne à des personnes qui veulent prendre du poids sainement. Et souvent, c'est j'ai arrêté les Kinder Bueno, je mange une poignée de noix quand j'ai faim, ou une poignée d'amandes. Bah, le problème, c'est que c'est le même nombre de calories si on prend la poignée d'amandes ou de noix que le Kinder Bueno. Et en plus, si même on rentre dans les détails, les amandes sont assez riches en oméga 6, donc elles peuvent être indirectement pro-inflammatoires aussi. En trop grande quantité, je précise toujours, il y a toujours un effet dose. Mais finalement, les oléagineux, c'est très bien. Mais il faut dire, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas tellement l'huile sur un repas, je dirais bah, au moins de manger 4 noix en fin de repas, ce sera très intéressant, ce sera à peu près l'équivalent à une belle cuillère à soupe d'huile, et très qualitative, riche en oméga 3. Et pareil, par contre, les oméga 3 n'aiment pas la lumière, ce qui veut dire qu'en plus, ces noix, il faut qu'elle reste dans la coque jusqu'au dernier moment parce qu'autrement, il n'y aura plus beaucoup de qualité en termes d'oméga 3. Donc, c'est surtout ce côté-là, finalement, oléagineux qui sont très intéressants, mais en petite quantité et bien dosés. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Et puis après, bon, bah, on connaît hein, globalement hein, tous les produits qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, mais après, c'est plutôt des aliments qu'on peut avoir tendance à diaboliser qui ne sont pas forcément. Je reviens et je continue sur les graisses. Bah, oui, il faut manger plus de graisses végétales que de graisses animales. Sauf qu'on a tendance, par exemple, à dire qu'il ne faut plus manger de beurre. Bah, faut savoir que le beurre, le matin, ce ne sera pas dérangeant. Il y a des vitamines. Et le beurre, ce sera toujours même mieux que de la confiture. Parce que la confiture, c'est un produit sucré. Il n'y a aucun intérêt nutritionnel. Et d'ailleurs, je parlais de l'oléagineux en disant, je ne vais pas les diaboliser, hein, ils sont très, très bien, justement. Mais par contre, tous les fruits secs, pour moi, ça, c'est des aliments qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel. Sauf peut-être en post-course, parce qu'il y a des minéraux tels que le potassium, etc., qui permettent d'être sourcés. Mais un fruit sec, un fruit à la base, c'est beaucoup d'eau, plus de 80-85% d'eau. Un fruit sec, il n'y a plus d'eau. C'est une bonne source de fibres, mais le problème, c'est qu'en plus, quand c'est séché, il y a encore plus de fibres. Le fibre, ça peut accélérer le transit. Donc, sur une course, ce n'est pas très intéressant. C'est une bonne source de vitamine C, antioxydant, qui est absorbée du fer, par exemple. Bah, sauf que quand on sèche à forte température, parce que c'est rarement séché à 30 degrés au soleil, bah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vitamine C. Ce qui fait qu'un fruit séché, c'est une mine, finalement, de sucre. Et j'irais même plus loin, il y a beaucoup de fructose. Et alors là, je parle spécifiquement pour le sportif et qui fait du très long. Il faut savoir que le fructose, en trop grande quantité, peut avoir un effet justement en termes de problèmes de transit. On doit consommer une certaine quantité de sucre par heure, 40 à 60 grammes. Au-dessus de 20 à 30 grammes, le fructose, eh ben, finalement, ça crée des problèmes de transit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer de fruits séchés, mais c'est-à-dire que maximum la moitié de ses apports, si on vraiment veut sur un effort vraiment consommer des fruits secs, bah faut que ce soit maximum la moitié, et encore la moitié de tous les fruits consommés. C'est-à-dire que si on consomme des figues séchées mais une compote aussi 100% fruits, on aura aussi beaucoup de fructose dedans. Donc il faut faire attention à ce côté-là. Et pour moi, les fruits séchés, effectivement, même les cranberries, même les baies de goji, oui, c'est riche en vitamine C. Sauf que c'est riche en vitamine C quand c'est cueilli sur l'arbre. C'est pas quand ça a été exporté de tel pays et que ça a été mis en sachet et que ça a été exposé au soleil. Voilà. Donc faire attention à ces effets de pub. Et effectivement, là, c'est un gros effet de mode. Mais pour moi, les fruits secs, quels qu'ils soient, il n'y a plus beaucoup de valeur nutritionnelle et c'est des bombes à calories.
Voilà. Alors là, tu es en train de me démolir mes abricots secs et mes energy balls dans lesquels je mets des dattes séchées, que je mixe et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans maintenant quand je vais aller courir?
Après, il y a une question de densité, hein. C'est-à-dire, comme je dis, il ne faut pas prendre que ça. Et après, c'est sur des efforts qui sont très très longs. Le tout, justement, c'est de varier, comme je dis. C'est-à-dire qu'on peut en consommer, je n'ai pas dit non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, pareil, je reviens sur les compotes de l'effort. Mmh. Bah, quand on regarde souvent les compotes de l'effort, elles ne s'appellent pas compotes. Parce qu'elles n'ont pas le droit d'appeler compotes parce qu'elles ne sont pas 100% fruits. Parce qu'il y a un peu de maltodextrine dedans. La maltodextrine, qui est un sucre, on va appeler ça un peu les pâtes liquides, qui est un peu plus lent, c'est un autre type de sucre. C'est pour ça que finalement, les compotes de l'effort, contrairement à une compote 100% fruits, pour un effort, bah finalement, seront plus intéressantes parce qu'il y a un peu plus d'énergie à long terme et en plus, ça varie le type de sucre. En gros, si on caricature, au niveau de l'estomac, on a des capteurs de tous les autres, fructose, galactose, etc., maltose. Et en fait, bah, il y en a qui arrivent à saturation. Et le fructose arrive facilement à saturation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais ça veut dire qu'effectivement, ne consommer que des fruits, même si c'est ultra naturel, bah, pour le coup, des fois, il faut consommer un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut consommer que des gels non plus, hein, surtout sur des efforts longs où c'est, voilà, même ce serait plutôt déconseillé parce que c'est écœurant. Mais il faut savoir varier un petit peu les apports nutritionnels.
Et un jour, j'ai fait une reco avec un coureur qui était champion du monde de trail même, tu vois. Et quelqu'un lui a demandé, parce qu'on n'était que des débutants, tu vois, il dit, mais qu'est-ce que je prends au petit déjeuner avant de commencer l'entraînement le matin et tout? Et il lui a dit, bah moi je prends une pomme, un café et je vais courir.
Bah ça dépend. Alors, un, ça dépend de la durée de l'entraînement. Et deux, alors ça dépend, mais pour l'intérêt nutritionnel de la pomme, il faut savoir que la caféine inhibe l'absorption de la vitamine C. Donc finalement, après, voilà, il le prendra plutôt pour le côté énergie, hein, le fruit. Après, comme tu dis, il a fait une pomme, c'est 20 grammes hein, de fructose. Et ça, c'est pas ça qui va créer un problème. Après, sincèrement, s'il fait une sortie X temps, de 3 à 4 heures, etc., je pense que la pomme, ça suffira pas, ou au moins, il aura une alimentation d'effort durant. Mais c'est sûr que si ça va assez tard, le petit déjeuner complet juste avant l'effort, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et c'est là que j'en reviens des fois au complément de l'effort. C'est-à-dire que oui, il existe des bouillies type sport-déj, des aliments type gâteau de l'effort qu'on trouve dans le commerce, qui pour le coup sont très pratiques et qui peuvent concerner même ceux qui savent pas faire la cuisine hein, et qui peuvent être pris justement notamment quand on est en déplacement, qui sont bien pratiques et très vite digérés. Ouais. Mais c'est pas, voilà, c'est pas négatif. Après, c'est pas forcément à produire tout le temps et notamment voilà, sur du trail très long, je doute quand même qu'ils partent faire des sorties très très longues avec qu'une poids.
Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'était drôle, c'est vrai, la réponse, tout le monde l'a regardée, puis tout le monde s'imaginait qu'il y avait un gros petit déjeuner, qu'il y avait plein de trucs, etc. Alors, on va mettre les pieds dans le plat, moi, carrément. Moi, le matin, j'aime bien courir à jeun, parce que je me trouve juste plus confortable. Mais alors, il y a ceux qui disent, oh, c'est l'horreur et tout, ton corps, tu l'épuises, etc., tu casses toutes les fibres et c'est la catastrophe. Puis il y a ceux qui disent, ouais, mais ça te fait pas de mal, etc. Alors, chacun sa chapelle, mais c'est quoi, finalement, l'avis de la diététicienne?
Alors, déjà, quand on court, on casse les fibres musculaires quoi qu'il en soit. Donc on part du principe que c'est l'horreur, tu casses toutes les fibres, tu les casseras quoi qu'il en soit, quoi que tu manges avant ou après. C'est pour ça que c'est plutôt la ration de récupération qu'on oublie souvent qui est importante. D'accord. Mais pour le côté finalement à jeun, alors déjà à jeun, il faut bien définir, hein, à jeun ça veut dire en ayant bu mais zéro calorie, c'est-à-dire un café sans sucre, pas de café au lait, pas de jus de fruits, voilà, de l'eau, du thé si vous voulez, mais finalement zéro calories. Si possible, pas d'édulcorant non plus, parce que ça peut jouer un petit peu sur l'insuline. Enfin, ça trompe le cerveau. Donc voilà, même le cola zéro le matin à jeun, c'est un peu dur. Voilà. Et d'ailleurs, je reviens sur la caféine. Il faut savoir que ça aide aussi à la lipolyse si on court à jeun. C'est-à-dire que ça aide à mobiliser finalement les graisses à l'effort quand on court à jeun. Donc là, jusque-là, j'ai l'air de dire que ça a l'air super positif et très bien. Après, il y a des limites très importantes. Il faut que ce soit un effort qui ne soit pas trop long. Justement pour ne pas trop solliciter et faire subir l'organisme. Donc maximum 45 minutes, on peut vraiment aller jusqu'à une heure pour quelqu'un qui est vraiment habitué, mais dans l'idéal, c'est un maximum de 45 minutes, et surtout en aisance respiratoire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler avec son voisin sans même halter, c'est-à-dire que la petite accélération qui fait plaisir à la fin parce qu'on est léger, faut mieux éviter, faut éviter aussi de le faire tous les jours, mais d'un côté, si on court tous les jours qu'en endurance, c'est aussi un petit peu triste, on peut se lasser un petit peu. Mais quelle que soit l'activité sportive, que ce soit du vélo, même vélo-taf, on peut faire du vélo-taf et puis prendre son petit déjeuner après, ça ne me dérangera pas. Et puis effectivement, quand on parle de à-jeun, c'est prendre comme un petit déj si possible derrière aussi, ou du moins une ration derrière. Mais voilà, le côté courir en aisance respiratoire, un maximum de 3 quarts d'heure, en ayant bu avant, en emmenant si possible, quelle que soit l'activité sportive, au cas où, surtout si on n'a jamais fait, avoir une petite pâte de fruits justement, ou même une fixe séchée hein, pour le coup, voilà, à l'intérieur, ou une compote, voilà, histoire du au cas où. Mais c'est pas forcément, justement, le but, c'est pas forcément de l'utiliser. Donc ça peut être intéressant, et ça aide à taper dans le gras. En fait, le principe, les 20 premières minutes, on tape dans le sucre qui circule encore dans le sang, de la veille, de ce qu'on a mangé. Et à partir de 20 minutes, bah, y a un choix en fait, que l'organisme a. On est en aisance respiratoire, bonne consommation d'oxygène, on tape dans le gras. Bah, on est au seuil, finalement on a du mal à respirer, et bah, finalement on ne peut pas taper dans le gras parce qu'on manque d'oxygène, et bim, protéolyse, et là effectivement inflammation musculaire, c'est-à-dire qu'on utilise comme carburant finalement la masse musculaire, et on casse beaucoup plus la masse musculaire, et surtout il y a des inflammations. Et le problème, c'est un peu comme que ce soit une activité à jeun, ou que ce soit quelqu'un qui cherche à perdre du poids, qui perd beaucoup, très vite, bah souvent on se sent très très bien au début. Et le problème, c'est que c'est sur du long terme qu'on en pâtit. Quelqu'un qui vraiment perd beaucoup de poids, voire trop de poids, sur des sports d'endurance, d'ailleurs c'est un peu des thèmes d'actualité actuellement, c'est au bout de 2-3 ans, des fois, qu'il y a une accumulation de blessures énorme. Et finalement, pendant 2-3 ans, on a super progressé, on a été super bien, on était vraiment nickel. Et le problème, c'est que pendant 2-3 ans, on va se retrouver avec des risques de fracture de fatigue, avec des inflammations, des tendinites, des choses qui seront en répétition et dont on ne se sortira plus. Et le problème, c'est qu'on aura des regrets, mais ce sera, je ne vais pas dire trop tard, mais c'est-à-dire qu'on mettra du temps à s'en remettre. C'est-à-dire qu'on a mis 2-3 ans finalement à se faire plaisir, mais qu'on risque dans les 2-3 années suivantes, même en respectant bien les règles, il va falloir du temps finalement à l'organisme. C'est un peu comme une blessure. Quand on se blesse, une petite tendinite, au début ça nous titille, on se dit c'est bon, on peut encore courir ou d'autres blessures. Eh ben, le problème, c'est qu'au bout d'un mois, si on ne s'est pas arrêté, on a plus d'un mois d'arrêt minimum, voire même des fois des choses qui récidivent. Ben, c'est pareil pour l'alimentation, c'est que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Moi-même, j'adore, hein, je digère lentement et j'adore courir effectivement à jeun, mais je sais qu'il ne faut pas courir trop longtemps non plus.
Ouais, c'est quand même super compliqué tout ça, hein, parce que d'arriver à trier un petit peu tout ce fonctionnement du corps, en fait. Parce que moi, j'ai le sentiment, en plus, que moi, dans ma génération, qu'on ne nous a pas appris à vraiment manger comme il faut, à comprendre tous les aliments, etc. Ma diététicienne, quand je suis allé la voir, et puis elle avait dit à ma femme, elle dit, mais vous vous rendez compte, vous mangez comme une étudiante. C'est-à-dire, mangez pas assez de légumes, mangez trop de pâtes, etc. On ne se rend pas compte, en fait, que même une ration de pâtes, elle est vite trop grosse, par exemple.
Bah, après, il y a la solution de facilité. On est dans un endroit toujours plus vite. Finalement, effectivement, c'est plus simple. Et d'ailleurs, on a aussi ce côté, tiens, on doit faire des pâtes d'un côté, on doit faire des légumes de l'autre, on doit faire de la viande de l'autre. Alors que finalement, on pourrait faire cuire les pâtes. Il suffit d'avoir la présence d'esprit de se dire, bah, les pâtes, on peut les faire cuire avec les courgettes en même temps. On peut prendre aussi du surgelé si on n'a pas le temps. Donc, en fait, c'est se trouver justement des petites stratégies, se trouver aussi des petits plats fétiches qui soient quand même assez équilibrés. Et bien sûr, savoir se faire plaisir. Hein. Le but, c'est pas non plus toujours d'être à fond. J'ai pas mangé mes crudités, j'ai pas mangé mes bonnes graisses, etc. Mais voilà, un équilibre global. Et après, ce qui est compliqué chez le sportif, et d'ailleurs, quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me demandent des conseils, alors voilà, dans une semaine ou dans 2 semaines ou 3 semaines, j'ai une course, donc j'aimerais rééquilibrer mon alimentation et à côté de ça, j'aimerais bien manger pendant la course. Je dis, vous savez, en fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes et faut, entre guillemets, traiter un petit peu de façon complètement dissociée parce qu'en plus, je vais vous dire des choses qui sont complètement différentes, enfin, qui sont antinomiques. C'est-à-dire que oui, il faut manger beaucoup de fibres pour bien rassasier, faut manger beaucoup de crudités pour le côté vitamines et minéraux, faut manger des produits céréaliers complets, voilà. Alors que à l'approche d'une course, on va éviter les fibres parce que ça peut accélérer le transit, on va éviter les eaux qui sont riches en magnésium antifatigue parce que ça peut aussi accélérer le transit, on va pas manger, on va diminuer. Donc en fait, tout sera complètement différent. Les produits céréaliers complets, c'est pareil, c'est toujours des fibres, donc il faudra aussi, si possible, les éliminer. Je ne suis pas anti-pâte, anti-gluten, mais par contre, si vraiment vous êtes stressé, vous avez déjà eu des problèmes de transit, bah peut-être que les 2 derniers jours, on fera plutôt une rice party ou une sushi party que finalement une pasta party. Donc si je donne tous ces conseils d'un seul coup, bah c'est sûr que la personne, ça va être encore plus brouillon dans sa tête et on va me dire, mais en plus, elle me dit tout et son contraire. Donc il faut vraiment dissocier et effectivement, il faut commencer. Pour un sportif qui veut bien s'entraîner, qui veut bien performer, et d'ailleurs faire plaisir, hein, performer c'est aussi dans le plaisir, c'est déjà commencer par l'équilibre alimentaire au quotidien. et notamment pour des courses très très longues ou l'ultra, où finalement on a tendance, je peux comparer l'ultra presque à un régime yo-yo, c'est-à-dire que finalement, pendant l'ultra, on ne peut pas assurer les besoins de l'organisme, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas assez, on le prive, et le problème, bah, c'est que souvent, on a un effet yo-yo derrière, c'est-à-dire que le corps, il a été privé, alors déjà, nous, on a envie de se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on mange très bien derrière, et en plus, le corps, bah, il va restocker très bien derrière, parce qu'il n'a rien eu, donc c'est finalement le régime, le trail, c'est un peu le régime d'avant-été, où après, on restocke derrière. Et étonnamment, plus on augmente les distances, et j'avais quelqu'un qui faisait justement, qui s'est mis à l'ultra en me disant, une féminine qui me disait, je comprends pas, je pensais qu'en augmentant les distances comme ça, bah finalement, automatiquement, je perdrais un petit peu de poids, bah non, j'ai tendance à en prendre. Bah oui, parce qu'on est finalement, et c'est pour ça qu'il faut vraiment un gros équilibre avant. Et quand je dis équilibre, c'est voilà, c'est pas la restriction, c'est justement manger quand même qualitatif pour espérer finalement être bien aussi pendant la course. Et c'est pas parce qu'on a une alimentation d'effort, un gel ou une boisson isotonique source de magnésium qu'on n'aura pas de crampes si finalement on n'a pas des bons apports au quotidien. C'est pas assez magique, enfin c'est voilà, c'est le côté encore marketing de se dire il y a marqué anti-crampe ou stop crampe sur mon aliment, c'est bon, je suis paré, je vais réussir mon truc quoi.
Il y a un truc dont on parle aussi beaucoup, c'est l'acidité, l'histoire de pH, les histoires de rééquilibrer après l'effort parce que bah le corps lui de toute façon il va chercher à s'équilibrer. Donc on se dit il faut l'aider. Donc c'est vrai ça tout ça?
Bah on acidifie le corps à l'effort. Après, je dirais que c'est un peu comme le côté aussi, je mettrais dans le même thème le côté détox. Mmh. Détoxifier le corps, bah oui, mais on a des organes dans le corps qui le font très bien en fait. Donc détoxifier en se disant je vais jeûner, je vais prendre un citron, je vais prendre ci. Si on mange globalement assez équilibré, et je parle pas, c'est pas parce que voilà, on a bu un verre d'alcool ou qu'on a pris un petit apéro que ça y est, c'est fini. Oui, tout ça, c'est acidifiant. Mais en gros, le pH et compagnie, si on a globalement des portions, un minimum de légumes, si on a un minimum de portions, enfin voilà, si on a un équilibre alimentaire global, des graisses de bonne qualité, on n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire tiens, et ça, le pH, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il est acidifiant, est-ce qu'il est basifiant. En gros, avec un bon équilibre, c'est vraiment une prise de tête. Après, oui, moi je le dis la majorité du temps, mais il m'arrive que des patients, ils arrivent, et quand je fais leur bilan, je dis non, mais c'est pas possible. Là, effectivement, café, thé, fromage, il y a des petits bonbons, donc aussi que le côté produit sucré sera signifiant. Et puis, bon, bah, le côté crudité, la soupe, c'est pas une crudité. Non, les betteraves, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas des crudités puisque ça a été cuit avant. Donc, non, vous avez pas ce côté-là. Ça manque de fibres, ça manque de bonnes choses. Donc, en gros, c'est pas essayer de basifier ou d'acidifier, c'est d'essayer. Voilà, si on est dans l'équilibre, de toute façon, on aura ce côté positif. Mais il faut surtout pas finalement être dans ce calcul, pour moi, d'acide basique, de pH et compagnie. C'est finalement se prendre la tête encore sur une autre chose qui finalement, si on avait la base, on n'aurait pas besoin de se prendre la tête là-dessus.
Par contre, un truc dont on doit prendre la tête, parce que ça, les histoires de la betterave m'y fait penser, c'est quand même sur les cuissons. Parce que cuire des pâtes 5 minutes ou 10 minutes, c'est pas tout à fait la même chose, de même que cuire des légumes à l'eau, à la vapeur, etc. Là, j'imagine quand même qu'il y a peut-être des bonnes règles.
Alors oui, on peut simplifier, hein. Effectivement, plus on mangera cru et entier, mieux ce sera. mais bon, on va pas devenir crudivore non plus, hein. Et passer son temps à manger justement japonais ou des carpaccio. Après, le tout, c'est d'essayer finalement d'être dans des cuissons qui seront plutôt al dente, de respecter, de ne pas recuire des aliments et de ne pas avoir des aliments qui sont cuits à très haute température. Et là, je pense, ça peut étonner, par exemple, les fameuses biscottes de régime. Biscotte, biscuit, bis, ça veut dire cuit deux fois. Donc en fait, quand on consomme des aliments qui ont été recuits, surcuits, je reviens sur les fruits séchés, on se retrouve avec des qualités nutritionnelles qui sont beaucoup moins bonnes. Et pareil pour les produits céréaliers qui sont complets aussi, qui seront plus intéressants. Donc en gros, plus l'aliment sera entier, mieux ce sera. Pareil pour les fruits, les jus de fruits, les compotes. Finalement, un fruit, les vitamines, les minéraux, l'eau, la compote, c'est cuit, il n'y a plus beaucoup d'eau. Et puis, un jus de fruit, on sait que bah, un grand verre de jus de fruit, c'est 3 pommes qu'on ne mangera pas. Donc, autant manger des choses, effectivement, qui seront entières, éviter de recuire, de surcuire. Les pâtes, on en parle, on ne sait pas toujours. Ça ne veut pas dire, pareil, hein, qu'il faut manger de cette façon. Mais en fait, cuisson al dente, il faut savoir que ce n'est pas forcément la meilleure façon de manger des pâtes. En fait, il faut presque les cuire. Si vraiment, avec le meilleur élève, les mettre au frigo, il y a un phénomène de gélatinisation de l'amidon et les manger sous forme de salade après. Et c'est là que finalement, on sera le plus rassasié sur du long terme. Et après, bien sûr, si on les fait recuire, bah, on parle de l'extrême, hein, les soupes dans la pâte au vermicelle. Voilà, sur un ultra, on a ça. Pourquoi? Parce que finalement, c'est très, très facilement digéré. Donc, c'est un aliment, finalement, qu'on a. Enfin, voilà. Souvent, on dit que c'est désuet le côté sucre lent, sucre rapide. Pourquoi? Parce que oui, les pâtes, c'est pas un sucre lent, ça dépend du type de cuisson. Après, voilà, je dirais que les pâtes, si on rentre dans ce côté sucre lent, bah, peu cuites, complètes, et bien effectivement, ou sous forme de salade, ce sera des sucres lents, parce que lentement assimilés, et donc à consommer loin de l'effort. Et plus on se rapproche de l'effort, donc ça ne veut pas dire que c'est mauvais, un produit sucré n'est pas indispensable à l'organisme, mais si on s'approche de l'effort, aux abords de l'effort, juste avant, si on n'a pas mangé du tout depuis longtemps, on peut avoir justement un petit fruit frais, une compote. Pendant l'effort, si l'effort est long, bah bien sûr qu'il faut des sucres rapides, on ne va pas manger des pâtes. Et après l'effort, pour la ration de récupération, effectivement, un sucre assez rapide permettra de rouvrir mieux la fenêtre glycogénique, c'est-à-dire qu'en fait, on restockera mieux les pâtes, le riz, le quinoa sur le repas suivant. Donc finalement, le concept d'index glycémique ou de charge glycémique, hein, c'est-à-dire que c'est aussi, ça dépend de ce qu'on mange autour, c'est-à-dire que si on mange un sucre, qu'on mange un sucre entouré finalement d'un morceau de pain complet, ça paraît bizarre, hein, mais voilà, confiture ou avec un peu de pain complet, bah, finalement, la charge glycémique sera différente, c'est-à-dire que le sucre sera moins vite assimilé.
Ouais, c'est passionnant ce sujet-là, parce que il y a plein de trucs à découvrir, et puis c'est un véritable entraînement. Dans un épisode précédent, on dirait que Cyril Blanchard, on parlait de l'entraînement avant l'effort, finalement, c'est des choses qui doivent se répéter à l'entraînement.
Oui, bah, c'est, en fait, voilà, c'est quand on a un entraînement, quand on a une compétition, je dirais que c'est bien d'avoir finalement une pré-compétition, alors soit officielle, soit officieuse avec soi-même, c'est-à-dire de répéter tout ce qu'on va faire pendant la compétition un petit peu avant. Qu'est-ce qu'on mangerait avant? Donc vraiment avoir à peu près la même alimentation, sauf pour le régime saucisse scandinave, où là, on ne va pas s'amuser à faire une semaine avant un faux régime saucisse scandinave pour le tester, parce que globalement, ça réussit à tout le monde. C'est quand même quelque chose qui choque l'organisme, donc le but, ce n'est pas de le répéter à chaque fois. Mais en gros, voilà, voir ce qu'on pourrait prendre au petit déjeuner, ce qu'on peut digérer. Même la tenue, c'est-à-dire que la tenue, parce qu'on parle finalement, on parle d'hydratation, mais le porte-bidon, le sac à dos, bah, finalement, si on ne le supporte pas et que ça frotte contre le textile et qu'on n'a pas testé le textile avec son sac à dos, bah, ça pourra être la mauvaise solution. Le type de bidon pour savoir comment on peut boire. Donc en fait, il y a aussi le côté technique et technologie qui sera tout autour. Et puis bien sûr, l'alimentation. Pas non plus faire des sorties trop longues, mais on parle de quantité de sucre par heure d'effort ou de glucides ou d'apport calorique. Mais sur des efforts très très longs, bah, c'est vrai que même quand on est adepte du sucre, qu'on adore ça et qu'on pourrait se dire bon, bah, moi je mange le repas principal pour avoir mon dessert, il faut savoir qu'on peut avoir un dégoût du sucré. Donc il faut savoir anticiper et il faut savoir finalement se trouver à l'avance des aliments qui seront un peu moins sucrés, voire même salés, déjà pour reconstruire les réserves en sel qu'on a perdu en transpiration, mais en même temps pour éviter, pour anticiper ce dégoût. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais oui, on peut, à partir de 5-6 heures d'effort, souvent, il y a un dégoût des produits sucrés. C'est pour ça que, par exemple, il faut mieux avoir deux bidons d'eau, un avec effectivement la boisson de l'effort, mais un avec que de l'eau, parce que le problème, c'est que si on n'a plus envie de sucre, eh ben, on ne boit plus non plus si on n'a que la boisson isotonique. Donc, c'est des petites choses comme ça et des stratégies de course qu'on doit avoir soi-même. On peut demander conseil, hein, bien sûr, auprès d'un diététicien, mais je parle même en parler d'un coach, auprès d'un ami, mais il faut tester soi-même parce que chaque personne sera vraiment différente, quel que soit l'aliment. Voilà, je vous parlais des gels, il y en a qui trouveront ça horrible. Après, il y en a effectivement, même pour varier, que ce soit des gels, que ce soit des gommes, que ce soit des barres, le type de barres, des barres salées qu'on trouve de plus en plus, même des purées. Ou d'ailleurs, aussi, parce que là, je parle que de compléments qu'on achète, mais... on a des fois des personnes qui sont eux-mêmes, et moi je le conseille, hein, c'est-à-dire que ça peut être du riz ultra cuit dans lequel on a cuit au bouillon, et donc finalement on aura du sel, le riz sera très très cuit, on le met dans une sorte de petit plastique et finalement on pourra se le consommer soi-même quand on l'a bien tassé. On peut mettre à l'intérieur une confiture ou un petit peu de chocolat pour se faire plaisir. Voilà, le but c'est vraiment de trouver aussi des aliments, la compote ou une purée de patates douces qu'on se fera soi-même dedans à l'intérieur, etc. Ce sera des possibilités. Donc aussi, on peut essayer de faire du fait maison et après trouver aussi la façon de le transporter, parce que bon, se dire je vais manger la patate douce, mais on ne sait pas comment on le met, ou je vais mettre du riz, ou je vais emmener des tucs, mais bah, le tuc c'est joli sur un ravitaillement, mais dans un sac à dos c'est moins pratique, hein.
Non, mais moi ça me fait sourire parce que j'avais un coach de fitboxing, fit, NES, enfin, global, tu vois, tout. Entre chaque cours, il avait une boîte, il sortait sa boîte, genre Tupperware, et dedans, un jour, je lui dis, mais qu'est-ce que tu manges là? Et c'est de la patate douce. entre chaque cours, il mangeait de la patate douce. Alors, je sais plus sa cuisson, comment il avait, parce qu'il avait ses trucs, mais il avait des gros bras, gros musclés, etc. et tout. Et pendant que tous les autres avaient tous leurs petits bidons de plein de choses, etc., lui, il me disait, nous, on carbure qu'à la patate douce. C'était son truc à lui, quoi.
Bah, c'est un aliment qui n'est pas mauvais par lui-même, qui est intéressant, qui est en plus très riche aussi, parce que en fait, tous les aliments qui sont un peu rouge-orangés sont très riches en bêta-carotène, qui est un très bon antioxydant. Donc finalement, on est même mieux que sur les pommes de terre, qu'on trouve aussi hein, sur des courses longues. On a des personnes qui mangent des pommes de terre, donc c'est un aliment qui se consomme facilement. Après, et puis c'est une énergie, parce que même quand finalement, c'est quelque chose qui se digère assez facilement, parce que même avec un bon temps, enfin, voilà, on ne peut pas le manger cru. Donc finalement, entre deux efforts, surtout que lui, justement, c'est un enchaînement d'efforts, souvent qui fera, surtout s'il a différents cours, il ne sera pas non plus dans l'ultra-intensité, donc il sera entre l'aérobie et puis l'explosif, donc il pourra toujours finalement digérer. Donc finalement, c'est un produit qui n'est pas si mauvais, c'est pour ça qu'il faut trouver ces aliments. C'est plus économique, peut-être plus aussi écologique, enfin ça, je ne sais pas forcément, mais voilà, enfin si, il n'y aura peut-être pas l'emballage, etc. Mais non, c'est des. Et puis en plus, honnêtement, ça a aussi un coût, hein, les produits de l'effort. Un gel énergétique, quand on voit que ça coûte 2-3 euros, ça fait un petit peu mal des fois. Il y a tout l'effort qui coûte 10-11 euros, bah oui, on peut tout à fait aussi en faire maison, après le tester et puis voir justement sur d'autres efforts, mais on peut aussi se faire des produits maison. Après, il y aura toujours des petites choses qui seront moins intéressantes. Une boisson de l'effort, par exemple, c'est un peu plus compliqué, mais sur des efforts très très longs, il faut rajouter si possible des acides aminés parce que on casse les fibres, mais on les répare sur du très long. Il faut rajouter du potassium, et alors ça, il faut s'amuser. Alors oui, on en trouve dans certains aliments, mais bon, ça devient un petit peu prise de tête. Donc honnêtement, c'est bien beau la technologie, enfin quand même de pouvoir avoir quand même des produits qui sont spécifiquement dédiés, qui ont des packaging aussi qui sont quand même bien pratiques. Des fois, on a le côté poudre, effectivement, qu'on mettra facilement en individuel. Et puis pareil pour, les, voilà, je reviens sur les rations de récupération. C'est vrai qu'une ration en sucre et en protéines est intéressante. Bah, un yaourt, ce sera très bien, un skyr, un yaourt à boire, etc. Sauf que, bon, un yaourt, si on a passé 2 heures et qu'on arrive au cul de la voiture, le yaourt, il aura un peu une sale tête. Donc, effectivement, des fois, oui, la whey, ça pourrait être intéressant si on fait un petit quotidien et qu'on est loin de chez soi. Et finalement, on aura sa ration de récupération qui sera un complément alimentaire, mais qui sera, pour le coup, qui complétera bien. Au bon moment, parce que la ration de récupération, il faut la prendre vite après l'effort.
Ouais. Bon, là, j'ai quand même une question à poser qui est importante pour moi. Mon beurre de cacahuète, enfin, c'est pas du beurre de cacahuète, c'est de la purée cacahuète. Mm-hmm. Là, je t'amène ma liste de mes repas et je te dis, regarde, le matin, je me prends ma petite tartine de pain complet avec ma purée cacahuète.
Bah, c'est une graisse de bonne qualité. Et comme je disais, alors déjà, même, il y a moins de graisse saturée que dans le beurre. Donc, ce ne sera pas dérangeant du tout, puisque finalement, c'est des graisses qui seront plutôt insaturées. Après, tout est une question d'effet d'onde. J'irais même jusqu'à dire que pour moi, le Nutella, oui, il y a peut-être des fois l'huile de palme, il y a qui sont sans huile de palme, mais le Nutella, ce qui pose le plus de problèmes, ou la pâte à tartiner globalement, la Nutella, etc., c'est plutôt l'effet dose. C'est-à-dire que à l'hôtel, quand on a des portions individuelles, ça va, mais ils nous vendent rarement des portions individuelles, et donc on tombe facilement dans le pot. Donc c'est surtout, voilà, ta pâte de cacahuète ou ta purée de cacahuète, déjà bien regarder s'il n'y a pas trop de sucre ou de choses comme ça de rajouter. Que ce soit pas avec justement enfin des choses qui soient un peu bizarres, qui est pas de l'huile de tournesol, qui est pas forcément idéal de rajouter, mais pourquoi pas. Et après on peut se faire aussi soi-même finalement. Ça me fait penser au petit déjeuner, souvent les personnes qui mettent des graines de lin aussi en disant que c'est très bon. Oui, la graine de lin est l'aliment le plus riche en oméga 3 et super intéressant, c'est anti-inflammatoire. Mais ça ne se digère pas, c'est-à-dire que il faut le broyer avant de le consommer, autrement ce sera bon pour le transit, mais ce ne sera pas spécialement pour la richesse d'oméga 3 qu'on prendra. Et il faut le broyer au dernier moment, donc il faut se dire que c'est prise de tête parce que ça s'oxyde à la lumière. Donc on ne peut pas se dire non plus je le broie à l'avance et puis je le mets dans mon petit bocal, parce que de toute façon, il y aura, ce ne sera pas mauvais pour la santé, mais il n'y aura plus d'intérêt nutritionnel. Donc finalement, tout est une question d'effet dose, de la façon dont on prend, et la purée de cacahuète, pourquoi pas. L'idéal, ce serait la purée de noix, puisque c'est plus riche en oméga 3. Mais le problème, c'est que justement, on ne peut pas faire des purées de noix parce que ça s'oxyde à la lumière aussi. Mmh. Donc, on peut, et moi, ça ne me dérangera pas tant qu'il n'y a pas trop, finalement, tant qu'il n'y a pas trop et que ce n'est pas de la purée de cacahuète au pain.
Alors, on en arrive pas très loin de la fin de l'épisode, mais moi, j'ai toujours une petite curiosité. Je me dis, je suis sûr que tous les coureurs, tous les athlètes, tous les sportifs, ils ont leur petit produit un peu inavouable, le petit bonbon qu'ils aiment bien manger après quelques heures de course, l'espèce de petit truc aussi. Comment on pourrait dire, un peu gris-gris, en se disant « Ah, mais si je mange ça, je sais qu'en général, ça se passe bien, etc. » Tu en vois des comportements de ce type-là?
Je dirais que souvent, des fois, ils osent pas se l'avouer, et puis c'est assez compliqué, mais j'ai pas spécialement de... Non, en fait, ça me fait rire, parce que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je cours souvent... Enfin, j'ai un chien, donc je fais un peu de canicross, et en fait... J'ai collaboré avec une marque qui malheureusement maintenant n'existe plus depuis un an, qui s'appelait Stinium, sauf que j'avais énormément de gomme de l'effort. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça très pratique sur un effort parce que ça a un petit côté régressif. Et justement, pour le coup, c'est pas un gel qui est pas très bon. Ça, on retrouve des aliments voilà, qui sont un peu communs, au commun des mortels. Et mon chien est un fan de gomme de l'effort, c'est-à-dire qu'il lui faut sa gomme de l'effort et après un effort, il ira chercher le paquet et il faudra absolument lui donner cette petite gomme de l'effort. Donc, mon chien est un athlète, on pourrait dire qu'effectivement, il consomme ses gommes de l'effort, mais autrement, après, le côté gris-gris, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont soit leurs, enfin, ils ont leurs habitudes et j'ai pas spécifiquement. Après, il y a le côté phénomène galette de riz aussi qui des fois sera utilisé, qui est bien avant, juste avant l'effort, mais qui est pas très intéressant nutritionnellement, mais par contre, juste avant l'effort, qui sera intéressant parce qu'il sera vite digéré. Et comme je dis, après, souvent les oléagineux, mais non, il n'y a pas de, j'ai pas de, de petites choses concernant des gris-gris alimentaires.
Ouais, parce que bon, j'avais croisé un athlète un jour qui me disait sur la diagonale des fous, par exemple, lui, il avait ce petit truc de Tagada, tu vois, ses petits bonbons comme ça, des choses comme ça. C'est vrai qu'après, il y a des petites habitudes. Bruno Obi nous avait dit aussi qu'il avait je crois que c'est le soda, je crois que c'est le coca, tu vois, à certains moments où il s'est rendu compte que ça lui faisait du bien, en fait.
Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme je dis, l'athlète est complètement différent sur un effort. Là, je parle de ma situation, j'aime pas le coca. Sur un effort long, sur des trails très longs, mais c'est un plaisir. J'adore consommer du coca. Alors bon, par contre, pour les adeptes du coca, la consommation, c'est vrai que je suis plutôt... Et d'ailleurs, finalement, ça pourrait horrifier les gens, parce qu'on dit que le coca, c'est trop sucré, que c'est pas bon. Mais en fait, le coca, oui, c'est trois fois trop sucré. Mais en fait, on va pas prendre que du coca, on prend de la boisson, de l'eau avec. Donc finalement, là, la bonne quantité, on a un peu de caféine, et puis finalement, on a souvent voilà, l'équivalent d'un tiers de coca. Et moi, je remplis mes gourdes, des fois, je me mets moitié coca, moitié eau, et finalement, j'ai ce plaisir à l'effort. Alors que ça peut paraître, même quelqu'un qui aime le coca n'aimerait pas cette dissociation eau-coca, mais sur un effort, c'est un plaisir, le petit côté caramel, le côté, je pense aussi, parce que c'est un goût qui est assez fort, donc finalement, ça permet, et c'est vrai qu'on manque un petit peu de goût des fois, même c'est pour ça que des fois, il y a des épices sur des barres de l'effort, type patate douce, curry et compagnie. Et finalement, le coca, oui, moi, chez moi, ça fait partie des aliments, je vais pas dire interdits, hein, c'est que vraiment, j'aime pas, je suis pas fan du tout. Et c'est des aliments, par contre, qui, pendant l'effort, me font plaisir. Après, je consommerai pas que ça non plus, mais c'est vrai que je suis presque déçue sur des courses, sachant que c'est quasiment toujours le cas, mais sur une course très très longue, oui, je serai avec, finalement, mon petit coca dans ma flasque. On aura le coca qui sera en parallèle. Et bien plus appréciable que n'importe quelle boisson de l'effort.
Bon, l'amateur de coca que je suis est horrifié d'avoir entendu que tu mets de l'eau dans le coca, mais bon, c'est un peu comme les vins, comme ceux qui boivent du champagne avec une petite paille, comme c'était à la mode à une époque, hein. Chacun est horrifié par ces trucs. Tiens, alors, tant qu'on y est dans les petits, je t'avais pas prévenu avant, mais si t'as pas d'idée, tant pis, on la remettra sur Instagram. Est-ce que t'as une petite recette, tu sais, un truc comme ça, un petit truc favori, toi? Avant un marathon, un petit déjeuner fétiche, un petit truc, tu vois, qui...
Alors, moi-même, je fais... Alors, soit je me prends typiquement vraiment les gâteaux de l'effort, que je trouve très, très pratiques. Le côté pratique, c'est que moi, je les fais dans des moules à l'avance en silicone, 6 petites portions, et je les congèle, ce qui fait que ça permet, même quand on est en déplacement, de pouvoir les emmener. Même quelqu'un qui, par exemple, effectivement, quelqu'un qui va faire le marathon de New York, qui part à l'avance, il sait pas trop ce qu'il y aura sur place, on sait même pas des fois si le petit déjeuner sera ouvert. Donc, plutôt que de rien avoir, finalement, d'avoir ça et qu'il se décongèle, ça pourrait être conservé. Donc, ça, c'est le côté qui est pratique. Mais moi-même, je fais mes gâteaux de l'effort moi-même. Après, là, voilà, je ne peux pas donner la recette, effectivement, on pourra la donner sur Instagram, mais je fais des gâteaux à base justement de carottes, de jus de clémentine, un petit peu le côté aussi pain d'épices, en mettant quelques épices dedans. Le but, c'est qu'ils soient justement assez digestes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de morts, il y aura peut-être des noix à l'intérieur, mais c'est plutôt réduit vraiment en petit pour que ce soit vite digéré. Et ça, c'est un gâteau à l'effort que je fais très régulièrement avant une course.
Alors, ça m'intéresse.
Voilà, et en plus je le trouve très sympathique et après on a d'autres, par exemple si j'ai pas de boisson de l'effort sur place, c'est vrai que prendre un bidon, mettre un tiers de jus de raisin, c'est-à-dire une brique de 200 ml, le reste, parce qu'un bidon ça fait 600 ml, mettre 200 ml d'eau et mettre une pincée de sel et finalement c'est une boisson isotonique maison, tout ce qui est plus basique. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut mettre le jus de pomme, du jus d'orange? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas trop acidifiant. Et surtout, en fait, le jus de raisin est un tout petit peu plus sucré, ce qui veut dire que, en termes de quantité de sucre, on est vraiment sur un ratio qui est très simple et qui est très, finalement, qui est très abordable et qu'on peut voir facilement. Et ça, pareil, on peut tout à fait l'utiliser, finalement, l'emmener hors, sans qu'il y ait un frigo, sans qu'il y ait rien d'autre du tout.
Eh ben, franchement, là, on a fait le plein de conseils. Alors moi, je te piquerai bien ta recette, hein, si tu peux me l'envoyer, je suis bien preneur. Parce que j'avoue que là, je suis totalement intrigué avec ces jus de clémentine, etc. Le grand gourmand que je suis me dit, tiens, il y a un nouveau truc à... En fait, depuis que je cours, je me suis rendu compte que je cuisine beaucoup plus, justement pour tester toutes ces petites recettes, etc. Pour arriver à trouver, je suis devenu un expert du riz au lait. Mais on va pas en parler parce que...
Ah, j'ai vu les Energy Balls aussi.
Ouais, Energy Ball, riz au lait. Une diététicienne m'a dit, tiens, tu peux essayer le riz au lait avant certaines courses, parce que je sais pas trop quoi manger avant certains trails, des choses comme ça, etc. Puis un jour, elle m'a donné une astuce, alors je sais pas ce que t'en penses toi. Elle m'a dit, avant un 10 km, des courses très rapides, elle m'a dit, tu peux manger un truc, genre, j'allais dire un Mars ou un truc dans le genre là, en fait.
Alors, c'est pile ou face. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une hypoglycémie réactive. C'est comme des fois quelqu'un qui prendra un gel juste avant un effort, on peut dire que ce sera 10-12 minutes avant, mais le problème c'est qu'on est tous différents et qu'on a tous des pics glycémiques, on réagira différemment. Ce qui veut dire que moi honnêtement, juste avant un effort, quand on conseille de manger un truc très sucré, ou voilà, ça peut être un stignum, enfin voilà, une gomme de l'effort, parce que finalement il n'y a pas énormément de sucre dedans, donc ça passera pas de problème, mais il faut vraiment faire attention au côté finalement action-réaction, et on risque de se retrouver avec une hypo pile au moment où on part. Et là, ce serait un petit peu dommage. Donc, ça peut réussir très bien à certains, beaucoup moins bien à d'autres. Après, en termes d'aliments, par contre, que moi, des fois, je mange, alors, soit avant, soit même après, parce que ça peut être recommandé, et notamment, les cyclistes me diront, OK, il n'y a pas de problème, c'est des flans. Un flan, c'est une bonne source, finalement, il y a des œufs, il y a des protéines, c'est quelque chose qui se mange facilement. Et moi, j'avais pris pour l'habitude d'en prendre souvent avant une course parce que ça digérait bien et que c'est vrai que moi, en termes de digestion, surtout quand il y a un peu de stress, je préfère avoir quelque chose qui me fond presque en bouche. Et puis le après l'effort, parce que finalement, il y a quand même une bonne source de protéines. Et s'il y a des courses très très longues, très 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 longues ou des cyclos, bah, finalement, on trouvera toujours une part de flan avec la petite boulangerie qui sera ouverte. Même en ces temps difficiles, on pourra trouver ça un petit peu n'importe où. Donc le côté part de flan, finalement, c'est une des, enfin, j'allais dire une pâtisserie qui sera presque le moins pire. Et même finalement, pour, je dirais, quand on a des fois un menu total qu'on doit prendre quelque part, le flan, ce sera vraiment une des choses qui sera, je vais pas dire ultra intéressante nutritionnellement, mais qui sera quand même avec beaucoup de sucre, avec des protéines, donc finalement, qui sera pas mal.
Ouais, alors tu vois, c'est ça qui serait super marrant, c'est que moi j'ai un dicton personnel à la maison, c'est flan avant l'entraînement, clignotant sur la piste, parce que ça m'est totalement HS. C'est vrai, hein, c'est un test. Le mercredi, ma fille adore le flan, j'adore le flan, on adore le flan à la maison, et un jour, enfin plus d'une fois, j'ai fait les tests, et je me suis rendu compte que systématiquement, ou alors c'est peut-être ma boulangerie, peut-être que je change de boulangerie pour le flan, mais c'est un truc que je ne supporte pas quand je vais courir, je ne sais pas
Alors,
pourquoi.
pour le avant, je dirais que c'est même avant d'être diététicienne, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette habitude, hein, de le prendre comme un certain temps. Hein, c'est-à-dire que c'est pas non plus juste avant, une demi-heure avant, parce qu'effectivement, voilà, le côté galette, ça risque d'être compliqué. Mais là, c'est plutôt, je dirais justement, le fameux green tea que j'ai toujours pris avant et qui m'a pas, je vais pas dire non plus, voilà, c'est compliqué de dire que ça m'a réussi, mais en gros, ça a jamais été négatif. Par contre, pour le après, pour sur des courses longues, et ben finalement, c'est un aliment qui pourrait être intéressant, notamment en vélo sur les courses longues, quand on fait finalement un petit arrêt. C'est vraiment quelque chose qui tiendra au corps. Et pour le après, d'un point de vue nutritionnel, vraiment, là, d'un point de vue diététique et scientifique, on aura un peu de sucre et on aura les protéines qui pourront être intéressantes. Alors bon, après, tout dépend des flans, parce qu'effectivement, il y en a qui sont un peu plus riches en crème ou d'autres qui mettront du lait ou plutôt de la crème. Mais globalement, c'est quand même un aliment, voilà, qui sera un petit peu le côté passe-partout qu'on pourra trouver quasiment partout, plus ou moins bon, hein,
Et ben voilà, et ben c'est un nouveau truc à tester hein, pour tous les adeptes. J'imagine que tous ces conseils-là, et on va retrouver beaucoup plus d'autres dans ton livre, L'alimentation du sportif.
Oui, bah d'ailleurs, la recette du gâteau, je pense, doit être dedans. Ça doit être celle-ci que j'avais mis dedans. Mais effectivement, il y a aussi le petit côté jus de raisin. Il y a aussi une petite barre aussi à tester. Mais oui, en fait, on a ça. On a effectivement les petits côtés aliments phares. On aura aussi le côté, surtout au régime dissocié scandinave, adapté, qui permet justement la semaine qui précède une course de vider les réserves en énergie et puis de les reconstruire encore mieux derrière. Hein. Voilà, donc et puis bien sûr l'équilibre au quotidien sur les apports nutritionnels recommandés, tout ça de façon assez, je dirais, vulgarisée. Hein. C'est pas un livre scientifique avec des pourcentages, avec des chiffres, avec souvent des recettes qui prendraient la journée à être fabriquées. Dont le but, c'est vraiment que ce soit accessible tout en ayant quand même l'impression d'apprendre qu'on ne soit pas pris non plus pour des imbéciles à dire non, mais ça, voilà, on le trouve dans n'importe quel magazine. Voilà, c'est des petites choses où on peut lire une petite page à chaque fois, je ne vais pas dire avant de se coucher, mais ça peut être l'après-midi ou peut-être un podcast justement le matin, etc.
Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Et j'ai quand même une dernière question, mais là, à la sportive, parce qu'on est dans une période où, bon, il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de course, etc. Est-ce que la sportive, quand même, elle a des objectifs? en ce moment?
Alors, la sportive, alors la dernière course, en fait, on revoit tout en fonction presque des. Moi, j'avais un objectif de faire du long l'année dernière. Finalement, je me suis retrouvée à faire un 5000 mètres sur piste, chose que je ne voulais pas faire parce que pour moi, c'est version hamster, hein, 5000 mètres sur piste, c'est trop trop long. Et finalement, bah, quand j'ai vu qu'une semaine avant, il y avait cette possibilité, l'été dernier, je l'ai fait. Pareil, il y a eu un semi marathon qui est tombé à Saint-Omer en plein milieu de l'été. Bah, je me suis dit, une des deux, on y va. Et puis finalement, je me suis fait très plaisir. Et là, en fait, j'ai découvert la course. Alors, comme je dis, je fais du trail, mais je fais aussi des courses un peu plus courtes. Mais j'avais jamais fait en fait du trail version un peu plus courte. Et c'est-à-dire que j'ai fait les championnats de France de course en montagne l'été dernier. Et ça, c'est un objectif que j'aimerais bien avoir. Après, on ne sait pas encore si ce sera annulé. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, au mois de juin. Bon, les championnats de 10 km ont déjà été annulés. C'est un objectif. Donc voilà, on passe à côté. Et on essaye en fait, avec mon petit groupe d'entraînement, de se recréer des phases successives d'entraînement. C'est-à-dire qu'on s'est fait un plan à peu 10 km. Là, on s'est dit, bon, bah, on va retrouver un petit peu de vitesse parce qu'on espère justement que pour la rentrée ou fin d'été ou dans l'été, on aura des courses. Donc là, on sait qu'il n'y aura pas grand-chose dans le mois qui suit. Et bah, donc, on va se créer, même si on n'est pas du tout spécialiste forcément de 1500 mètres ou de courses courtes. Et bah, finalement, on s'est fait tout un cycle. Et là, qui va commencer la semaine prochaine, ça va être le cycle prépa 1500 mètres. Pour la majorité de personnes qui sont des fondeurs, pour retrouver de la vitesse justement, pour être plus performant sur des courses à la rentrée. Bon, j'aurais bien fait le Médoc, mais pareil, j'ai peu d'espoir qu'au mois d'août, finalement, fin août, début septembre, comme c'est des grosses courses, souvent elles sont quand même. Pour moi, il y aura peu de chances que ça ait lieu. Mais bon, voilà, peut-être le Médoc. En tout cas, j'étais inscrite l'année dernière et ça sera peut-être décalé. Mais voilà, ça sera peut-être à mon avis des courses en espérant soit une course en montagne, soit. Enfin, voilà.
Eh ben écoute, je te souhaite que tu puisses les faire, hein. Je te souhaite une belle continuation. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils. Je mettrai tous les liens pour ceux qui veulent retrouver le livre, des liens, ton compte Instagram, ton site internet, etc. Parce que il y a plein d'autres choses encore à voir, à découvrir. Et je te remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils et pour finalement cette manière qui nous aide à progresser et à voir hein, toutes les la subtilité qu'il y a dans toutes ces informations. Merci beaucoup.
Bien, merci à toi aussi. Bonne journée.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.